France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, du lundi au vendredi jusqu'à 11h. Et ce matin, comment rendre son chat heureux? Quels sont ses besoins physiologiques, physiques, nutritionnels, psychologiques, émotionnels qui permettent à votre chat d'atteindre une forme de plénitude, une ataraxie, une zénitude, un bonheur maximal? Est-il vrai d'ailleurs que cet animal réputé solitaire n'a besoin de personne pour être heureux? Nous verrons également pourquoi ce félin si populaire rend heureux celles et ceux qui vivent chez leur chat. Et puis, quelles sont les erreurs qui mènent à une mauvaise entente. Nous reviendrons également sur quelques clichés qui collent à leurs pattes. N'hésitez pas à nous raconter ce qui rend heureux votre chat et pourquoi il vous le rend bien. Au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sans oublier d'utiliser le bouton réagir sur l'appli Radio France. Dites-nous également pourquoi il vous serait totalement impossible de vivre avec un chat. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Bonjour docteur Nicolas Desvart.
Bonjour Ali.
Alias Nico Veto sur les réseaux sociaux. Vous êtes vétérinaire généraliste en Normandie et vous publiez chez First Edition « Talon Gaucha, le guide pour prendre soin, comprendre et cohabiter avec son chat ». Bonjour docteur Hélène Gâteau.
Bonjour Ali.
Vous êtes vétérinaire et animatrice et vous aviez publié en 2017 chez Albin Michel « Tout sur votre chat ». Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour, il faut se dire bonjour à soi-même, j'ai compris, non? Bonjour Guillemette Odissino. Bonjour Ali.
Bonjour Guillemette Odissino, chef de rubrique cinéma. Cinéma Télérama et surtout ce matin, grande amoureuse des chats, vous vivez chez vos deux chats, Billy, 12 ans et Bob, 10 ans, c'est bien ça?
Absolument, je vis chez eux, ils ont vraiment la grande amabilité de m'accueillir dans leur décor.
Nicolas Desvart, vous ne parlez jamais de propriétaire, vous ne dites jamais propriétaire, parce que pour vous, on ne peut pas s'approprier cet animal indépendant.
Non, on est son humain, en fait. On vit chez lui, exactement, ce qu'on disait juste avant, hein, c'est son empire chez eux, et nous, on n'est que les vassaux.
Pour ma part, et par commodité de langage, je parlerai de propriétaire de chat au cours de cette émission. Hélène Gâteau, à quel signe, à quel type de comportement voit-on qu'un chat est heureux, qu'il jouit d'une forme de sérénité totale, d'ataraxie
Alors, ça va être un chat qui est à l'aise dans sa vie. C'est un chat qui va avoir des interactions avec son propriétaire, je veux dire son humain, son propriétaire, on va jouer avec les deux. C'est un chat qui va exprimer ses comportements normaux, donc ça veut dire un chat qui va se toiletter normalement, ni peu, ni trop peu, ni trop en excès. Un chat qui va faire son comportement de griffade également de façon normale. Un chat qui va manger normalement, donc ni être boulimique, ni rejeter sa nourriture. Un chat qui va venir se frotter à vous, qui va rechercher des caresses, qui ne va pas être tout le temps en train d'aller se cacher, de fuir, qui n'est pas tout le temps sur le qui-vive. Voilà, un chat qui occupe l'espace de façon en étant à l'aise. Ça, c'est un chat qui est heureux et puis qui miaule aussi, qui interagit avec vous, avec des miaulements, avec des ronronnements.
Ah mais tiens, justement, le ronronnement du chat indique-t-il son état de bien-être ou est-ce de l'anthropomorphisme?
Non, le ronronnement, en fait, il peut avoir plusieurs significations. Alors évidemment, ça peut signifier que le chat est bien et détendu et apaisé, mais on sait aussi que le ronronnement peut être exprimé dans certaines situations de mal-être ou de douleur chez le chat. Donc on arrive à faire la différence en prenant le ronronnement dans une globalité, c'est-à-dire comment le chat est-il physiquement et quels sont les autres signes qu'il va dégager. Donc on va facilement faire la différence entre un ronronnement de bien-être et un ronronnement de douleur, ça c'est sûr.
Nicolas Desvart, quels sont les signaux de bien-être envoyés par le corps d'un chat? Parce que son corps, c'est un outil de communication qu'il faut savoir décoder. Hein.
Alors, tout le contraire de ce qu'a dit Hélène juste avant, au point de vue du bien-être. Hein, c'est un chat qui va beaucoup plus se lécher que d'habitude. Hein, c'est pour ça qu'on peut avoir des plaies de léchage. Bah, des fois, on va prendre ça pour de la malpropreté. Le chat, c'est un signal qu'il nous donne.
C'est un signal de...
Qu'il n'est pas bien, qu'il est stressé.
Oui, donc là, vous parlez de signaux de mal-être, alors.
Exactement. Voilà. Là où il va nous montrer, il va faire pipi sur le lit, où il va, nous fuir, vraiment être vraiment de côté. Il va moins manger, donc se laisser un peu plus aller. Et puis, un chat très gentil va devenir un peu plus, agressif.
Voilà. Mais si on observe justement les signaux du corps, les pupilles, les oreilles, les poils, la queue, dites-nous, donnez-nous les signaux qu'il faut vraiment observer, vous les décrivez dans votre livre.
Alors, c'est vrai que le chat ne parle pas, du moins, s'il peut beaucoup s'exprimer avec les miaulements, hein, mais les yeux vont pouvoir
les pupilles.
Changer. Les pupilles vont complètement se dilater quand il va être énervé. Les oreilles vont se mettre plutôt en arrière. Le langage du corps, en fait, va complètement changer quand il n'est pas bien. La queue va être beaucoup plus à l'horizontale, va foyer un tout petit peu différemment, en fait. Ça ne va pas être une queue en point d'interrogation. Voilà, tous ces signaux-là vont nous montrer que le chat n'est pas bien.
Donc, si on observe des pupilles dilatées, des oreilles en arrière, une queue basse, c'est le signe de peur ou de stress, Hélène Gâteau ?
En fait, c'est ça. Il faut apprendre à lire et à décoder son chat dans sa globalité. Prendre en compte tous les signaux qu'il vous envoie. Donc, les signaux du langage corporel, comme l'a dit Nicolas, effectivement. Donc, les oreilles, la queue, les pupilles, la posture du corps aussi, les poils. Est-ce qu'il y a une éventuelle piloérection ? Donc, ça, c'est le chat qui n'est pas bien, qui est stressé, qui est potentiellement agressif. Voilà, c'est les poils. Et puis après, c'est aussi la façon dont il va se comporter à la maison. Est-ce qu'il se planque ? Est-ce qu'il vient vers vous ? Donc ça, ce sont vraiment des signaux à prendre en compte. Et par rapport aux vocalisations, c'est pareil. Le miaou, en fonction de l'intonation du miaou, est-ce qu'on est un miaou qui termine vers de l'aiguë ou est-ce qu'on est un miaou qui va plutôt vers le grave ? Le grave, c'est plutôt de l'inquiétude ou bien de l'agressivité. Quand ça va vers l'aiguë, c'est plutôt du contentement et un chat qui est heureux.
Et les signaux corporels donc du bien-être, de la curiosité ou de la détente, c'est plutôt les pupilles fines, les oreilles droites et la queue droite ?
Ce sont alors, des signaux... la queue, c'est ce que disait Nicolas, la queue vraiment, la queue d'un chat détendu, c'est une queue qu'il porte en point d'interrogation, donc droite vers le haut avec une petite légère courbure à l'extrémité de la queue. Et puis ensuite, si elle est vraiment très droite, qu'elle commence à frétiller ou alors qu'elle s'agite à l'horizontale, ça c'est qu'il est plutôt stressé et qu'il est en colère. Ouais.
Guillemette Audicino.
Ah bah écoutez, ça marche sur mes deux chats, pareil. Bah, j'en ai un qui est beaucoup plus inquiet et potentiellement dominant un peu et agressif que l'autre. Alors moi j'appelle ça la queue en écureuil. Quand il est stressé, Bob, il a la queue en écureuil, c'est-à-dire il a une queue beaucoup plus...
Touffu.
Tout d'un coup touffu. Et là je me dis, ah merde, ah là là, danger. Surtout quand il emmerde ce qu'on appelle son frère, ce qui est complètement con, mais enfin, quand il embête l'autre chat. Et les pupilles c'est pareil. Enfin, ça effectivement, le poil c'est vraiment un truc qui est visible à l'œil nu directement. Ça, on sent qu'on est dans une phase d'agressivité. En fait.
Mais ça, vous l'avez appris au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on apprend à décrypter son chat. C'est important, l'observation. Ça, on ne prend pas assez de temps à observer son animal. Et puis, à lire aussi, justement, des livres et vraiment avoir une sorte de bible pour avoir les bons signaux et pour pouvoir décoder son chat.
Et moi, j'en ai deux. Donc, alors, en fait, la comparaison marche bien aussi.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, comme ils ont deux personnalités différentes et deux manières de s'exprimer différentes, du coup, j'ai appris assez rapidement à décoder le calme et la tempête.
Nicolas Desvart, un chat, ça passe sa vie à dormir, à se reposer. Il est forcément heureux, enfin, dans mon esprit. C'est un cliché ou non ? Parce que...
Alors, c'est vrai que le chat, c'est un grand, grand dormeur. Mais des fois, ça peut être aussi pathologique. C'est-à-dire, le chat qui va énormément, énormément dormir, plus que d'habitude, ça peut être aussi un signe de stress ou quelque chose qui ne va pas.
Mais un chat adulte dort en moyenne 12 à 16 heures par jour, pas d'affilée évidemment.
Oui, c'est ça, on dit à peu près 16 heures par jour pour un chat adulte, il y aura à peu près 12 cycles. Alors on ne dit pas forcément qu'un chat est diurne ou nocturne, on va dire qu'il est polyphasique. Donc ces fameux 12 cycles, ils vont être répartis sur 24 heures et ils vont être entrecoupés de phases d'activité qui peuvent être du toilettage, qui peuvent être d'aller déambuler, d'aller jouer, d'aller grignoter un morceau, d'aller chasser. Mais voilà, un chat dort beaucoup. Et plus il est jeune et plus il est vieux, plus il dort. Mais parfois, quand il s'ennuie trop, il dort aussi.
Et le chat est-il paresseux ou est-ce lié à des caractéristiques biologiques ?
Il s'économise. C'est, même quand on le voit, son ancêtre, le lion, c'est le roi des fainéants, en fait. Il a tendance vraiment à dormir. Et par contre, il va avoir des périodes d'hyperactivité qu'on va pouvoir retrouver chez nos chats, ce qu'on appelle les zoomies. Le chat, s'économise. Il va chasser, il a besoin de ces choses-là, mais la plupart du temps, il s'économise.
Alors, je reviens sur le titre de notre émission ce matin, comment rendre son chat heureux. N'est-il pas abusif d'appliquer à un chat un sentiment humain comme le bonheur, sans compter qu'il est très difficile de définir le bonheur chez les humains, Hélène Gâteau ?
Alors, on sait aujourd'hui que les chats, ce sont des êtres sentients. Donc, sentients, ça veut dire que ce sont des animaux qui peuvent exprimer des émotions positives et négatives, qui peuvent avoir aussi du recul par rapport à des actions décisions qui vont entraîner telle ou telle conséquence, qui savent aussi voir les répercussions de certaines actions sur eux-mêmes ou sur un tiers, et qui sont capables aussi comme je vous le disais, oui, d'exprimer des émotions positives ou négatives. Donc à partir de ce moment-là, on peut définir qu'un animal peut aller soit dans un sens, donc être dans le bien-être, ou être dans le mal-être. Et après, on peut avoir une estimation des besoins de l'animal. Vous savez, il y a cette fameuse pyramide de Maslow qu'on peut également calquer. La pyramide de besoins qu'on peut calquer sur le chat, et puis estimer que d'abord, il faut combler les besoins physiologiques et de soins de l'animal, ensuite les besoins de sécurité et de protection, après les besoins d'interaction éventuelle, les besoins d'activité physique, et ensuite tout ce qui est le choix, le consentement chez le chat, qui sont extrêmement importants aussi.
Alors, une idée reçue voudrait que le chat soit un être solitaire qui n'a besoin de personne pour être heureux. Nicolas Desvart.
Là, c'est vrai que c'est complètement faux. C'est une idée en disant on peut laisser son chat pendant 3 semaines, il fera sa vie, tout ça. Il a besoin de contact, le chat. Il a besoin de notre contact, mais par contre, il n'a pas besoin, on parlait justement de notre bonheur et de son bonheur. Des fois, on a tendance à un peu trop vouloir le câliner, de pouvoir un peu le soustraire, en fait, à sa liberté. Ça, il déteste, en fait.
Le chat est plutôt indépendant que solitaire.
C'est difficile, en fait. Parfois, on dit il n'est pas sociable, alors qu'en fait, si, il peut être sociable. Enfin, en fait, je pense qu'on se cherche un petit peu par rapport au chat. Il est beaucoup plus indépendant qu'un chien. Solitaire, en fait, ça va dépendre aussi. Il n'y a pas un chat, il y a des chats. Donc, il va y avoir des chats qui vont adorer les interactions avec les autres chats, avec même d'autres espèces, avec nous-mêmes, et puis d'autres chats qui n'en ont rien à faire et qui veulent juste être tranquilles, vivre leur vie de chat ultra indépendant. Donc il faut savoir s'adapter justement à la personnalité de son chat, et on peut avoir un petit peu tout dans cette espèce, c'est ça qui est formidable aussi.
Guillaume Todicino.
Moi je pense qu'effectivement la notion du consentement, c'est un peu une notion vraiment essentielle chez le chat. C'est vrai que si lui il a décidé de vous coller, et moi j'ai deux chats qui collent, hein, mais vraiment, enfin qui peuvent, enfin se mettre sur moi pendant, mais je sais pas, des heures entières, dormir avec moi, se poser sur le canapé, mais sur mon épaule littéralement. S'ils l'ont décidé, tout va bien. Si vous l'attrapez pour lui faire le câlin sans lui demander son autorisation, il y a immédiatement, j'adore quand ils se tendent comme ça là. Ils griffent pas, mais ils se tendent, ils sont surtendus, on dirait des élastiques là. Et là, il y a vraiment, bon, ils ont absolument besoin qu'on les pose sur le sol. Ils aiment pas être pris en l'air. Enfin, je sais pas si ils aiment pas être soulevés.
Ben, ils sont en position de vulnérabilité dans ces cas-là.
Ça les angoisse d'être soulevés.
Ils peuvent pas fuir, ils peuvent pas se défendre. Enfin, c'est compliqué quand même pour eux, cette position.
Et nous accueillons Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue dans Grand Main vous fasse.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Bonjour. Quel est votre témoignage, votre question?
Alors, moi j'ai un chat qui s'appelle Antoine, qui est un chat que je trouve très versatile, c'est-à-dire qu'il vient chercher des câlins, en ronronnant, d'une manière très très excitée, et donc je le caresse, et d'un seul coup, il se met à me mordre avec une grande grande violence, et il a un peu le même caractère que Donald Trump, et je ne sais pas trop comment faire pour appréhender ce chat. Qui à la fois qui peut être très 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 changeant. Pourtant j'ai tout fait pour améliorer son quotidien et j'ai l'impression de ne pas y arriver.
Une belle analogie entre votre chat et le président des États-Unis, Hélène Gâteau.
Le témoignage de Jean-Baptiste, il est parfait, parce qu'en fait, là, ce qu'il a dit, il vient vers moi en miaulant, en réclamant des câlins. Mais qu'est-ce qu'il vous dit qu'il réclame des câlins? Il vient vers vous en miaulant, il vient chercher votre proximité, mais il a peut-être pas forcément envie que vous le touchiez. Lui, il a envie de se frotter contre vous, mais peut-être que cette interaction-là lui suffit. Il a pas envie d'aller au-delà. Et vous voyez, souvent, on interprète ça. Le chien qui vient sur vous, par exemple, Guillemette, vous en parlez tout à l'heure, il a peut-être juste envie d'être sur vous, de profiter de votre chaleur, mais il ne veut pas être manipulé dans tous les sens. Ils sont hypersensibles au niveau de la peau, en plus, les chats. Donc,
de façon générale, est-ce qu'un chat aime être caressé?
Alors, ils aiment être caressés, oui, mais alors, de façon générale. Donc oui, ils aiment être caressés, mais il y a certains chats qui n'aiment pas ça. Certains chats vont accepter uniquement au-dessus de la tête, comme ça, mais le ventre, au niveau de la queue, etc., ils n'aiment pas du tout. Donc souvent, en fait, on surinterprète leur désir d'interaction, on imagine qu'ils veulent des câlins alors qu'ils veulent juste notre proximité, notre chaleur, venir nous dire bonjour, venir mettre nos odeurs, et puis dans ces cas-là, on est trop intrusif avec eux.
Une caresse aussi qui peut être très agréable, en même pas 2-3 secondes, peut être désagréable chez lui aussi, c'était prouvé scientifiquement, et c'est complètement bizarre chez le chat.
Il va falloir vivre avec ce chat versatile, Jean-Baptiste. Tiens, un autre cliché tenace, le chat serait un être sournois, fainéant, maléfique, l'animal du diable. Des défauts
merci
très présents.
Merci les films de Disney d'ailleurs.
Exactement, des défauts très présents dans l'imaginaire collectif. Des chats sournois et manipulateurs, on en voit pas mal dans la fiction. Le chat beauté de Charles Perrault, le chapeauté dans Shrek, ou le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles.
Et les chats siamois qui embêtent la Belle et Clochard aussi. Mais ouais.
Sur ce cliché, Hélène Gâteau.
Sur ce cliché, c'est parce que je pense qu'on les maîtrise pas assez, ouais. En fait. Donc, du coup, comme ils gardent, ils sont pas aussi domestiqués que les chiens. Ça reste des animaux qui sont mystérieux, donc ils nous surprennent encore pas mal. Mais et puis c'est compliqué aussi de mener des expériences, ouais. Par exemple scientifiques, pour mieux comprendre les chats. Donc en fait, finalement, il y a toute une part de mystère. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du chat et la beauté de la vie avec un chat. C'est ce mystère, donc qu'il le cultive.
Nicolas Desvart.
C'est exactement ce qu'a dit Hélène, hein, c'est qu'ils ont le côté mystérieux et ça, nous, on a du mal à l'accepter. On voudrait un peu soumettre, peut-être avec le chien, c'est peut-être un peu plus évident. Le chat, on ne peut pas le soumettre à quelque chose. Le chat est indépendant, donc il en fait ce qu'il veut en fait. Donc ça, l'homme a du mal à... Donc c'est pour ça qu'on l'a déifié pendant l'Égypte, et après on l'a un peu persécuté durant le Moyen-Âge, et puis maintenant c'est redevenu un tout petit peu tout à fait à la norme, mais même avec nos artistes et autres, c'est nos confidents.
Dans un instant, on continue à se demander comment rendre son chat heureux. N'hésitez pas à témoigner. Votre chat peut témoigner également. Il peut appeler sur WhatsApp et au standard au 01 45 24 7000. Sans oublier d'utiliser le bouton réagir sur l'appli Radio France. On écoute Philippe Catherine, Mon cœur balance, une chanson sortie il y a déjà 30 ans. 10h22 sur France Inter.
Entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, aux formes rebondies, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. De tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance.
Catherine interprétait Mon cœur balance.
France Inter.
Une cuillerée pour la maman. Et maintenant, on va se brosser les dents et on va aller au dodo.
Grand bien vous fasse.
Chez Bon. Pour nous aussi, votre chat est une personne à part entière.
Mais je vois pas pourquoi on aurait des enfants avec mon mari. Vous croyez pas qu'on est assez nombreux sur Terre comme ça?
Ali Rébi.
Comment rendre son chat heureux, c'est notre thème ce matin, en compagnie des vétérinaires Hélène Gâteau et Nicolas Desvart, et d'une très grande amoureuse des chats, la journaliste de Télérama, Guillemette Audicino, et nous accueillons Roland. Bonjour Roland.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et bonne année à vous.
Et bonne année à vous aussi Roland. D'où appelez-vous Roland?
Voilà. Alors j'appelle la Seine-et-Marne de Moissy-Cramayel, qui est une commune qui est à côté de Paris.
Très bien. Alors, quelle est votre question?
Alors ma question, c'est qu'en fin de compte, comme le monsieur a dit tout à l'heure, les Égyptiens adoraient les chats, mais c'est vrai que le chat est un anti-stress. Mmh. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai fait un burn-out suite au corona virus. Mmh. Et ben, mon chat m'a beaucoup aidé parce que le docteur me donnait tellement de médicaments que je voulais pas en prendre. J'ai pas pris du tout les médicaments. C'est mon chat qui venait sur moi avec son ronronnement. Et c'est tellement calme, le chat, qui m'a déstressé complètement. Voilà. Et il fait partie de ma famille.
Et cette action,
avec moi.
Et cette action anti-stress, ça a mis plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'en ressentir les effets, ou c'était immédiat ?
Plus de deux ans, j'ai été stressé. Et là, maintenant, je ne suis plus du tout stressé. Voilà.
Et comment expliquer justement, docteur Hélène Gâteau, je rappelle que vous publiez « Je rends mon chat heureux chez Solar », comment expliquer cette action anti-stress que Roland ressent dans sa chair et dans son âme? Comment vous expliquez ça?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les ronronnements, ça on a prouvé scientifiquement.
Il y a des études scientifiques.
Oui, que les ronronnements, leur fréquence va avoir une tendance à apaiser notre rythme cardiaque, à baisser notre tension artérielle, et puis favoriser un état de détente. Ensuite, il y a aussi l'aspect hormonal, c'est-à-dire que le contact avec un chat, mais qui est valable aussi avec un chien, par exemple, ça va entraîner une sécrétion d'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Et puis, ça va favoriser aussi la sécrétion de la dopamine. Donc là, on est dans les circuits de la récompense, vraiment, du plaisir. Et donc, tout ça mis ensemble, plus une diminution de la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone du stress, tout ça, ça a été prouvé, vraiment, que le contact avec l'animal et le chat et la caresse entraîne tout cela, toute cette déferlante hormonale, eh bien ça procure finalement un état d'apaisement et de diminution du stress.
Et c'est vrai, docteur Hélène Gâteau, que ça va à l'encontre d'une autre idée reçue qui voudrait que le chat ne soit pas capable d'attachement avec un humain, docteur Desvart.
Ah, tout à fait. Non, c'est complètement faux, ça. C'est bien sûr qu'ils ont un contact. Ils nous choisissent, par contre. Si jamais ils sont pas heureux chez nous, ils vont partir ailleurs. Mais par contre, une fois qu'ils nous ont choisis, on est leur humain à 100%.
Les chats développent un véritable lien d'attachement avec leurs propriétaires. Sauf que les chats montrent cet attachement à leur manière.
Oui, mais un chat qui vient vers vous, qui se rapproche, qui vient chercher des interactions, qui vient se frotter à vous, qui vient dormir avec vous aussi, donc qui va chercher votre proximité, votre chaleur, qui répond quand vous l'appelez, qui vous regarde aussi. Tout ça, ce sont des signaux qui montrent que votre chat vous apprécie et est attaché. Alors, on va plutôt parler d'attachement que d'amour, parce que l'amour, c'est un sentiment qui est compliqué à prouver scientifiquement. Mais en tout cas, le lien d'attachement, ça, il est indiscutable aujourd'hui entre le chat et son humain.
Guillemette Odissino ?
Il me vient une question par rapport à ce que disait Roland. Est-ce que je délire ? Mais quand je suis malade, même les endroits où j'ai mal, si j'ai mal au ventre, etc., mon chat vient se mettre exactement à l'endroit où j'ai mal. Et donc, je me dis, c'est pas possible. Enfin, comme s'il sentait qu'il y avait un endroit qu'il devait penser, disons. Alors, c'est moi qui délire, parce que j'aime trop mes chats. Ou est-ce qu'ils sentent aussi un besoin de réconfort, enfin, ou de guérison de notre part?
Il va falloir arrêter le rosé, Guillemette.
Oui.
Nos chats sont vraiment nos tampons. Ils nous sentent le stress. Déjà, le stress.
Ils sentent quand on va pas bien.
Quand on est stressé, quand il y a quelque chose qui nous travaille, ils vont avoir un comportement complètement différent. Hein. Mais ça, on le voit tout de suite. Les maladies, c'est pratiquement nos détecteurs précoces. Une personne qui a un diabète, une personne qui a un cancer, une femme qui ne sait pas encore qu'elle est enceinte, le chat va le savoir. Et il va avoir un comportement complètement différent. Comme vous le disiez, il va avoir tendance à se rapprocher, à aller un peu plus au niveau du ventre. Alors ça peut s'expliquer avec les hormones qui peuvent être diffusées. Mais tout ça, le chat, en fait, c'est un détecteur hyper puissant.
Docteur Gâteau.
Oui, n'oublions pas qu'on est des espèces qui sommes différentes, le chien, le chat et l'humain. On a tous ce qu'on appelle un umwelt. Umwelt, c'est la façon dont on perçoit le monde et dans lequel on évolue, en fait. Et ça, c'est défini par quoi ? Défini par nos capacités cognitives et sensorielles. Le chat a des capacités sensorielles qui sont bien différentes des nôtres. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus sensible au bruit, à des choses qu'on ne perçoit pas, aux odeurs également. Donc, une douleur, une maladie va avoir finalement, il va émettre des odeurs qui peuvent être complètement différentes, que l'animal va percevoir, que nous, on n'est pas du tout bon d'un point de vue de l'olfaction. Donc c'est vrai qu'ils sont capables de percevoir des choses que nous ne voyons pas, parce qu'on évolue dans des mondes qui sont vraiment différents.
Merci beaucoup, Roland, de nous avoir appelés. Nous accueillons Manuel. Bonjour, Manuel. D'où appelez-vous, Manuel ?
À côté de Besançon, dans un petit village.
Comment s'appelle-t-il ? Citez-le.
Je ne sais plus.
Alors, quelle est votre question ?
Alors, moi, j'ai eu deux chats qui sont nés à la maison. Il y en a un que j'ai offert à ma mère et l'autre que j'ai gardé. C'est des chats, je le dis, que j'ai imprégné quand ils étaient tout petits, c'est-à-dire que je les ai tenus dans la main à la naissance. Et donc, je pensais que ça en ferait des animaux extrêmement proches, etc. Et en fait, ils ont deux trajectoires extrêmement différentes. C'est-à-dire, le chat qui est chez ma mère est un chat qui est extrêmement placide, qui vit chez elle, qui ne bouge pas, qui ne sort pas. Et celui qui est chez moi est un chat qui est totalement indépendant. Qui ne vient à la maison quasiment que pour manger, on va dire, et qui de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, une fois tous les 6 mois, va venir rester, dormir avec nous éventuellement, et puis passer des journées entières. Et puis, la plupart du temps, il s'en va, il se sauve, et c'est comme si il nous connaissait pas. En tout cas, quand il a mangé.
Ça vous rend pas triste, j'espère, quand il ne vous reconnaît plus.
Ah non, moi je suis content de sa liberté.
Vous dodelinez, Guimette.
Bah non, mais c'est moi ça me ferait... Moi, ça m'agacerait que le chat de ma mère soit hyper câlin et que le mien se barre toutes les 5 minutes.
Docteur Hélène Gâteau.
Oui, bah, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas un chat, mais il y a des chats. Et effectivement, leur personnalité, c'est ça qui est chouette quand même. C'est qu'on ne peut pas les calquer dans une même portée. Il va y avoir plusieurs personnalités différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, on dit il faut adopter un chaton, parce que comme ça, on va lui apprendre tout ce qu'on veut. On va le former à la vie qu'on veut qu'il est, et puis on va déterminer un petit peu son comportement. En fait, on se rend compte que finalement, c'est plutôt vers l'âge de 6-8 mois où on peut se dire, bah tiens, ce chat-là, il a tel comportement, telle personnalité, et à l'âge de 2 mois, ils ont à peu près tous la même personnalité, les chats. Et à l'âge de 6-8 mois, eh bien, on voit vraiment des différences entre eux.
Ben, par exemple, ça veut dire qu'on peut, parce que j'ai plein d'amis qui veulent des chats, etc., et qui, en fait, hésitent aussi à en adopter dans des refuges, etc., des chats un peu vieux ou un peu blessés, dont personne ne veut, évidemment, mais qui hésitent en se disant, ah, mais si je prends un chaton, il sera plus attaché à moi.
Non,
en fait, c'est faux.
Ouais, pas forcément,
donc,
justement.
On peut aider des vieux chats un peu abîmés, et ils peuvent s'attacher à nous tout autant.
Vous aurez moins de surprises en adoptant un chat âgé de plus de 6 mois parce que son comportement, sa personnalité, elle va être un petit peu plus stabilisée que si on prend un chaton, où là un chaton même très mignon au début peut se devenir un chaton extrêmement indépendant au bout de quelques mois, et c'est sa personnalité, et vous aurez beau essayer de l'avoir imprégné, de l'avoir beaucoup manipulé comme l'a fait Manuel avec son animal, c'est pas forcément sa personnalité, et ça vient bien au-delà, ça vient de ses gènes, ça vient de plein d'autres choses, mais voilà, 6-8 mois, c'est génial pour savoir quel va être le comportement, le caractère du chat.
Merci beaucoup Manuel de nous avoir appelé. Alors un chat heureux, c'est un chat qui est bien chez lui, et comme vous le rappelez dans votre livre Hélène Gâteau, votre chat investit, je vous cite, votre chat investit la maison comme son propre territoire, et c'est encore plus le cas si vous vivez en appartement, le chat choisit lui-même les endroits où il aime dormir, observer, faire ses griffes.
En tout cas, il faut lui laisser le choix. Ouais. C'est-à-dire que bien souvent, on a tendance à imposer à son chat, tiens, il va dormir là, il va manger ici, ses toilettes vont être ici. Un chat, quand il est dans un appartement, c'est bien de pouvoir lui laisser le choix. Ça fait partie des besoins qu'on respecte pas assez chez l'animal, comme le consentement, finalement. Donc, c'est important de lui mettre plusieurs endroits, par exemple, de couchage, et puis de voir ce qu'il va préférer. Le griffoir, c'est pareil. On va avoir tendance à dire, bah tiens, le griffoir, je vais le mettre ici. Non, observez votre chat et regardez quels sont ses lieux de passage, les endroits qu'il a envie de baliser. Ça demande du temps, effectivement, d'aménager un appartement en fonction de la personnalité de son chat et de ses habitudes.
Rappelez aussi que le griffoir, c'est pas seulement juste pour faire ses griffes, c'est vraiment aussi pour mettre... C'est un peu comme la chambre d'ado, pour dire, avec les posters, les choses comme ça, ici c'est chez moi. Donc si jamais on a tendance à le mettre un peu dans les toilettes, dans les endroits, le chat, il est pas bien, en fait. C'est très important, il diffuse en fait avec ses petites phéromones qu'il peut avoir au niveau des griffes, aussi au point de vue visuel, ici, c'est chez moi.
Guillemette Audicino.
Ah bah moi, alors la chambre d'ado de mes chats, c'est le canapé. Hein. Pardon, mais parce qu'alors le coup du griffoir, j'en ai acheté une fois, quoi. J'ai laissé tomber direct après. Ils ont décidé que le griffoir, c'était le canapé, c'est comme ça. Quand vous achetez, vous savez, le coussin moelleux spécial pour le chat, tu parles. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, très rarement, quand on achète un truc spécialement, eh ben, il sent... Mais battre les flancs complètement.
Et parfois, c'est même le carton qu'ils préfèrent.
Mais bien sûr, mais le nombre de fois où, en fait, c'est dans l'emballage. C'est comme les enfants petits à qui vous achetez des cadeaux hyper chers et ils jouent avec les ficelles. Bah, c'est pareil.
Alors, j'aimerais qu'on s'attarde, docteur Nicolas Desvart, sur quelques dangers à la maison et qui peuvent évidemment, ces dangers, affecter sérieusement le bien-être de son chat. Tiens, attention, par exemple, aux médicaments et produits ménagers.
Alors, il y a un médicament qu'on prend pratiquement trop souvent, le paracétamol. Bah ça, le paracétamol, c'est mortel pour le chat.
Le paracétamol, il ne faut pas le laisser traîner, la moindre boîte de médicaments.
Dernièrement, j'ai eu une intoxication au paracétamol sur un chat. Alors, c'était un enfant qui prenait du paracétamol sous forme de gel, en sirop. Donc, c'était assez sucré. La dame l'avait laissé sur le bord de la cuisine. Le chat avait léché et le faisait assez souvent. Et voilà, on a une intoxication assez rapide. Mais un comprimé, ça peut tuer 10 chats.
Attention également à certains aliments qui sont vraiment dangereux pour le chat.
L'oignon, l'ail, tous ces produits-là, en fait, peuvent être toxiques sur le chat. Bon, après, le chocolat, j'ai vu malheureusement sur YouTube, sur Instagram et TikTok, des YouTubeurs et autres qui donnaient du chocolat au chat pour leur faire plaisir. Ça, par contre, ça peut être une intoxication chronique aussi.
Docteur Gâteau, sur les aliments à éviter? Moi, j'ai repéré le raisin, les agrumes, l'avocat, les fruits à noyaux et à pépins, parce que certains noyaux, enfin certains pépins contiennent du cyanure, comme les pépins de pomme, de poire ou de prune. La pomme de terre crue également, les haricots crus, les fèves, les lentilles crues. Il faut faire attention à tous ces aliments.
Oui, il faut faire attention à tout ça. Alors après, heureusement, le chat n'est pas aussi glouton que le chien. Donc on a moins de risques d'aliments toxiques que le chat va ingérer, mais effectivement, vigilance, ne pas lui donner ce genre de choses, ça c'est important, mais comme ne pas aussi donner des plats trop gras, parce que trop de gras chez l'animal, ça peut entraîner des troubles digestifs, voire une pancréatite, donc voilà, il vaut mieux avoir un aliment qui soit bien adapté à son animal, en fonction de son âge, de son état physiologique, de son activité à la maison, etc.
Guillemette Audicino.
Puisqu'on parle de la santé des chats, je peux donner un conseil pratique? Je vous en prie, chers auditeurs et auditrices, prenez des mutuelles pour vos animaux et pour vos chats, parce qu'il peut leur arriver un problème de sang. Si vous y tenez comme la prunelle de vos yeux et qu'ils ont besoin d'une opération grave, moi, j'avais pas pris de mutuelle en me disant eh bien, le jour où l'addition chez des collègues à vous, très cher, c'était 2000 euros, eh ben, j'ai compris qu'il fallait prendre une mutuelle. Non, mais prenez des mutuelles. Hein. Et prenez-les vite, parce que plus ils sont âgés, plus les mutuelles sont chères, ou même on veut plus assurer vos animaux. Donc prenez des mutuelles, ça vous évitera d'énormes déconvenues financières.
Oui, tout à fait.
On parlait d'ingestion d'aliments interdits, il y a aussi les plantes toxiques, comme le lys, le muguet, le laurier rose. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'ingestion, justement, d'une plante toxique ou d'un aliment interdit? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors là, assez rapidement, téléphoner à son vétérinaire. Souvent, le chat bave énormément et prend la plante aussi pour montrer ce que c'est. Le chat, il ne faut pas trop attendre en fait, en se disant bah voilà, c'est passé, le chat va bien. Le chat montre très peu, il a très peu de symptômes en fait. Hein, et souvent, on attend trop longtemps.
Une question très intéressante d'Hélène de Narbonne. Un chat peut-il être heureux en appartement sans aucun contact avec la nature?
Alors ça va encore une fois dépendre des chats, c'est-à-dire qu'il y a des chats plutôt pantouflards qui vont très bien se satisfaire d'une vie enrichie dans laquelle ils seront très stimulés en appartement, parce qu'on va jouer avec eux, on va respecter leurs besoins, on va leur permettre d'exprimer aussi ce comportement de chasseur que tous les chats ont. Et puis il y a d'autres chats chez qui l'enfermement va être extrêmement mal vécu, ça fait vraiment de la captivité, c'est de la prison, et dans ces cas-là, il va exprimer énormément de signaux de mal-être, hein, tout ce qu'on a évoqué en début d'émission. Et dans ces cas-là, c'est qu'on lui offre un environnement qui n'est pas adapté à ce chat. Et parfois, il faut se poser les bonnes questions et quitte à avoir au sein de sa famille quelqu'un qui pourrait lui offrir bien une maison avec un accès à l'extérieur. Donc, il faut savoir en tout cas, voilà, parfois prendre des décisions, ne pas abandonner son chat, hein, mais trouver dans sa famille un plan B dans lequel l'animal sera plus heureux.
Et il faut rappeler que l'accès à l'extérieur, l'accès à un jardin, c'est c'est vital aussi parce que c'est lié à l'instinct de chasseur du chat, Nicolas Desvart.
Tout à fait, le chat c'est un prédateur, mais on peut, en enrichissant justement son appartement, cachant un tout petit peu des fois la nourriture et autres, ça le stimule en côté prédateur. C'est pour ça que des fois on peut avoir, je ne sais pas, tous les soirs vers 19h, son petit quart d'heure de folie, c'est son côté prédateur. Il a besoin de se dépenser énormément pour pouvoir justement être bien dans sa peau.
Docteur Hélène Gâteau, pourquoi est-il très important de préserver l'environnement olfactif du chat, un environnement olfactif préservé qui contribue à son bien-être?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que eux, ils ont dans leur capacité sensorielle, ils ont un odorat qui est beaucoup plus développé que le nôtre, et un chat, il a besoin d'une bulle sensorielle pour se sentir bien. C'est pour ça qu'il va marquer avec ses phéromones, que ce soit en se frottant, en frottant ses joues, en allant frottant, en faisant ses griffades. Ça lui permet en fait de créer une bulle dans laquelle il se sent bien parce qu'il y repère ses odeurs. Et c'est pour ça aussi que quand un chat revient par exemple de chez le vétérinaire, il va passer énormément de temps à se lécher, à se toiletter, etc. Parce qu'il faut absolument qu'il se débarrasse des odeurs qu'il a pu finalement absorber de la clinique vétérinaire des autres animaux présents et pour refaire en fait un reset. C'est aussi pour ça que les chats, ils adorent aller dormir en hauteur sur des endroits un peu isolés dans lesquels personne d'autre ne va et uniquement eux, parce que ça veut dire que là, ce sont leurs propres odeurs et donc ils se sentent bien. Voilà, l'environnement olfactif du chat est très important.
Juste pour rebondir sur ce que disait Hélène, donc faire attention à nos bougies, nos huiles essentielles qui ont tendance vraiment, c'est pas encore assez étudié, mais on est en train d'intoxiquer nos animaux. Et le chat est hyper sensible justement à ces odeurs.
Et nous accueillons Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, bienvenue. Bonne année à tout le monde.
Bonne année à vous aussi. D'où appelez-vous Jean-Pierre ?
De l'Aveyron.
De l'Aveyron, beau département. Dites-moi votre histoire avec votre chat. Comment ça se passe ?
C'est pas mon histoire avec mon chat, c'est plutôt le récit de mes chats que j'ai eu tout au long de ma vie. J'en ai eu quatre.
Quatre.
Et j'ai constaté qu'ils n'étaient pas quatre pas ensemble à la suite. J'ai constaté qu'ils étaient très très différents dans leur comportement, leur psychologie. J'ai eu une chatte très très maligne qui ouvrait les portes en sautant sur les poignets. J'en ai eu une autre qui était très furtive, qui finalement pendant 10-12 ans est passée quasi inaperçue, puisqu'elle aimait surtout sortir dehors, rentrer uniquement pour la nourriture et n'avait pratiquement aucune interaction. J'en ai une qui se supportait presque tout le temps enfermée et qui était dormeuse. Et là, en ce moment, j'en ai un que j'ai depuis 2 ans seulement, qui est très bavard, c'est-à-dire qu'il miaule pour un oui, pour un non, avec des miaulements très différenciés. Quand il rentre, il y a un miaulement. Quand il a faim, c'en est un autre. Quand il veut sortir, c'en est encore un troisième. C'est assez curieux. Et il a été comme ça dès le début. Quand je l'ai pris tout petit chaton, il a commencé déjà à s'exprimer par des miaulements. C'est le premier qui est aussi bavard des quatre chats que j'ai eu dans ma vie.
Et Jean-Pierre, vous avez pu montrer vos capacités d'adaptation avec ces quatre chats?
J'ai essayé du moins. En principe, oui. Alors, celui que j'ai actuellement, oui, comme il miaule beaucoup, ça veut dire qu'il est très exigeant. Et ça veut dire qu'il a un peu tendance à prendre l'ascendant sur moi, parce que sinon, il n'arrête pas de miauler quand il veut quelque chose, il faut qu'il l'obtienne.
Guillemette.
Ah oui, non, mais j'adore. Oui, moi aussi, j'ai un de mes deux chats qui est extrêmement bavard, et qui même me regarde en miaulant. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment, je suis en train de devenir une mémère à chat, c'est-à-dire que je lui parle, il me répond. Enfin bon, dans 2 secondes, c'est l'hospitalisation, je pense.
Docteur Hélène Gâteau.
Je fais juste une mini parenthèse. Vous avez vu que dans les 4 auditeurs qu'on a eu, on a eu que des hommes. Mais alors qu'on dit toujours que le chat, c'est un animal de femme. Ouais. Vous venez de parler de mémère à chat. On dit les femmes à chat. Et là, on vient de voir qu'en fait, il y a vraiment des 4 dads. Et bravo aux 4 dads. Moi, je trouve ça génial.
4 papas. 4 papas à chat. Et on aura des auditrices, là, juste après le disque. Juste une question un peu terre à terre, je l'avoue, sur la litière. Bon, parce que ça contribue au bien-être du chat, à son bonheur. Dieu merci, je n'ai jamais eu à changer de litière d'un chat. Car je n'ai pas de chat. J'ai des souvenirs olfactifs assez terribles. Hein. étant invité chez quelqu'un, pas chez vous Guillemette, je rassure les auditeurs, l'odeur forte de l'urine de chat, c'est pas une légende. Hein.
Alors surtout en plus...
C'est pour marquer son territoire, hein, cette forte odeur.
Alors l'odeur elle est d'autant plus forte si jamais c'est un mâle qui n'est pas castré. Ouais. Alors là, dans ces cas, ça sent vraiment très très fort. Après, l'odeur, bah, c'est l'odeur de l'urine des chats, donc vous y êtes peut-être très sensible, effectivement, Ali. Après, c'est évident que bah, oui, les urines, les excréments, ça sent quelque chose, donc il faut changer la litière. Alors parfois, on a tendance à se dire, bah, tiens, je vais prendre une litière avec un bac fermé, comme ça, ça va permettre d'enfermer les odeurs, mais attention justement à ce choix de bac à litière, c'est pas toujours l'idéal pour les chats. Il y a des chats qui n'aiment pas du tout ça.
Et ça veut dire quoi si son chat fait ses besoins ailleurs que dans la litière? Est-ce que c'est un signe de stress ou d'anxiété, docteur Desvart?
Déjà, il n'en fait pas exprès, c'est un signal.
C'est un signal, donc.
Dire que ça ne va pas. Donc, il y a plusieurs origines. Ça peut être un problème urinaire, un problème de cystite. Ça peut être un problème de calcul, un problème rénal. Le chat boit beaucoup, donc il urine aussi beaucoup. Et il veut juste nous montrer en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même en cas de stress, le chat va nous faire pipi sur nos vêtements. Oh. Et on dit souvent, il se venge. Mais non, il veut juste nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas le faire volontairement pour se venger.
Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de chats qui vont exprimer un comportement de malpropreté. Mais comme le disait Nicolas, d'abord, il faut éliminer les causes pathologiques, médicales, ça c'est important. Et une fois que c'est éliminé, on peut essayer de chercher est-ce qu'il y a effectivement un problème de stress? Est-ce qu'il y a eu un changement dans la routine du chat? Est-ce que sa litière est peut-être un peu trop sale? Est-ce que vous avez changé la marque de sa litière? Ça peut empêcher un chat d'aller faire ses besoins. Donc il y a plein de choses à prendre en compte aujourd'hui. Mais en tout cas, on ne laisse pas un comportement comme ça s'installer, parce que ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est sûr.
Guillemette.
Oui, enfin, en tout cas, moi, je pense que le chat est un animal particulièrement propre. Et donc, j'en ai un, donc Billy, qui est très snob. Et il faut, changer la litière quasiment tous les jours ou tous les deux jours, parce qu'autrement, ça lui déplaît. En fait, il n'aime pas. Mais il est comme vous, Ali, il n'aime pas l'odeur de l'urine, vous voyez.
Allez, dans un instant, on s'intéresse à la gamelle de votre chat, puis aussi au jeu. Il faut jouer avec lui pour le rendre heureux. Ouais. On se retrouve juste après avoir écouté Wet Leg, qui interprète Mange Tout, 10h47 sur France Inter.
Get lost forever.
Wet Leg interprété Mange Tout. Et...
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment rendre son chat heureux ? C'est notre thème ce matin en compagnie des vétérinaires Hélène Gâteau et Nicolas Desvart et d'une grande amoureuse des chats, la journaliste de Télérama, Guillemette Audicino, chroniqueuse le vendredi dans cette émission. Et nous accueillons Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Ali, bonne année à vous.
Bonne année à vous aussi. D'où appelez-vous d'ailleurs ?
Paris.
Paris. Alors quelle est votre question ?
Alors voilà, je suis l'heureuse adoptante de deux poilus, une qui
chats,
a 5
hein
ans, oui, deux chats, femelle et mâle. Et j'ai une femelle de 5 ans, et est arrivé le mâle qui a 2 ans, et il se chamaille pas mal. Et le souci que j'ai, est-ce que je dois interagir ou pas, parce que la petite fait quand même 2 kilos de moins que le garçon, et je m'inquiète parfois, mais ai-je raison ou pas ?
Docteur Hélène Gâteau, c'est pour vous.
Oui, bah écoutez, la cohabitation entre deux chats, malheureusement, c'est difficile de signer sur un accord de paix systématique entre les deux, en fait. Parfois, on prend un deuxième chat en se disant il va avoir de la compagnie, alors qu'un chat peut très bien se satisfaire de sa vie en solo avec les interactions qu'il a avec son humain. Et quand on leur impose la présence d'un autre congénère, bah, parfois, ça peut mal tourner, surtout s'il y en a un qui va prendre le dessus par rapport à l'autre. Et dans ces cas-là, il faut faire effectivement attention Stéphanie, parce que vous avez un de votre chat, donc la femelle, qui peut vraiment être le punching ball du premier et devenir extrêmement anxieuse, devenir extrêmement stressée. Donc il y a quand même quelques règles pour que la cohabitation se passe bien. C'est déjà de multiplier les espaces, c'est-à-dire ne pas les faire manger l'un à côté de l'autre, mais qu'ils aient deux endroits pour manger, qu'ils aient aussi deux litières, une litière chacun plus une. Il faut toujours avoir un nombre de litières supérieur au nombre de chats. Il faut qu'ils aient des endroits pour pouvoir se reposer à des lieux différents. Donc il faut de l'espace en fait. Il faut que chacun puisse avoir son propre espace et évoluer à la fois sur un espace horizontal et puis en verticalité aussi, grâce à des étagères, des hamacs, des arbres à chats. Mais en fait, il faut tout multiplier par deux et pas se dire bah, ils vont partager les dodos, partager la gamelle, partager la litière. Ça, on oublie tout de suite.
Guillemette Audicino.
J'ai eu le même problème moi quand j'ai pris un deuxième chaton, enfin, sauf que le deuxième chaton est devenu dominant du premier chat. Donc, et moi, alors, est-ce que ça marche ? J'avais acheté, vous savez, les prises avec des huiles essentielles censées un peu calmer.
Des phéromones.
Ben, ça avait un peu marché. C'est-à-dire, ça avait calmé les premières agressivités.
Docteur Desvart ?
Oui, ça marche. Après, il ne faut pas forcer les choses, comme disait Hélène. Il ne faut pas essayer de dire, vous allez être amis. Le chat, en fait, il choisit. Donc, il faut prendre du temps. Nous, on voudrait que, dès le début, ça marche bien. Ça prend beaucoup de temps. Alors, des fois, on peut même mettre des territoires un tout petit peu différents. Et ce qu'on disait juste avant, les odeurs, ils se sentent entre les chats. Mais si jamais on leur impose directement, bah, c'est là où on peut avoir des conflits. Et des fois, c'est des conflits, je dirais, tolérables. Hein. C'est-à-dire que ça peut avoir des petites rencontres. Bon, après, c'est, si jamais il n'y a pas de lésion, si jamais c'est pas l'autre chat n'est pas traumatisé, c'est des choses qui se font tout à fait normalement et au fur et à mesure, tout s'arrange.
Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir appelé au 01 45 24 7000 et nous accueillons Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour à toute bonjour. L'équipe, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux également. D'où appelez-vous Emmanuel ?
De Paris.
De Paris. Alors, quelle est votre question ?
Alors moi, je voudrais témoigner. Lorsque j'ai adopté mon premier chat il y a 3 ans, je l'ai adopté chez une personne qui adore les chats et qui m'explique qu'il fallait beaucoup jouer avec lui, ce que je ne savais pas. C'était tout un apprentissage de découvrir ce qui l'intéressait, ce qui ne l'intéressait pas, et puis de voir que certains jeux qui l'intéressent à un moment, bien, il faut en inventer de nouveau. Puis au bout d'un moment, j'ai adopté un deuxième chat pour qu'il se sente moins seul. Et là, le deuxième chat n'aime pas les mêmes jeux et ne joue pas au même rythme. Donc il a fallu apprendre à jouer aussi avec le deuxième chat. Et tous les jours, presque, je consacre du temps à jouer avec eux pour leur permettre d'exprimer leur instinct de chasse. Et ils me le réclament. Les jours où je suis trop fatiguée, je ne joue pas, eh bien, ils tournent en rond, ils miaulent, ils ne sont pas contents.
Vous avez dit une chose très importante, jouer avec son chat, ça répond à un besoin fondamental, docteur Desvart, qu'il ne faut pas négliger, l'instinct de chasse, notamment.
Fondamental et même vital.
Vital,
c'est important pour le chat, hein. C'est tout ce qui est développement aussi et stimulation cérébrale, le chat en a besoin pour aussi déstresser aussi, de pouvoir avoir ces petites explosions d'énergie, ça évite d'avoir des pathologies à côté.
À quoi jouez-vous, Emmanuel, avec vos chats ? ou votre chat, pardon.
J'invente toutes sortes de jeux. À une époque, je courais d'un bout à l'autre de l'appartement en traînant une ficelle avec une petite plume et une petite clochette.
Ah.
J'ai toutes sortes de plumes. Alors au départ, je les ramassais au parc et puis le vétérinaire m'a dit non, je voudrais mieux acheter des plumes aseptisées. Mm-hmm. Donc j'achète dans le commerce des plumes pour l'habillement. Puis je les frotte sur le mur, sur les meubles, je les agite, je les cache. Mm-hmm. Je les cache derrière un coussin ou alors je glisse ma main sous une couverture et je gratte la couverture comme si un petit animal était en dessous. J'ai une canne à pêche avec une plume au bout qu'ils aiment beaucoup. Puis voilà, j'invente tout le temps des nouveaux petits jeux parce qu'ils se lassent. Mais la course, ils aiment beaucoup. Ouais. J'ai quelques minutes à courir avec eux dans l'appartement en traînant un petit objet, ça les amuse.
Et vous savez que s'ils s'entendent bien, ils peuvent jouer au foot.
Ah.
Je plaisante pas, hein. Vous leur mettez un petit bouchon en liège. Et ils se font des passes. Enfin, moi, les miens, ils se font des passes. Enfin, avant de se disputer, évidemment.
Le premier le faisait avec moi quand il était seul, mais depuis qu'il a une compagne, il ne s'intéresse plus du tout.
C'est sa compagne qui lui interdit de jouer au foot, c'est génial.
Quels sont vos...
Mais son comportement a changé depuis qu'il a cette compagne. Elle lui apprend de nouveaux jeux, parce que les chats apprennent, en fait, en se mimant. Lui, il a appris à cette petite chatte qui était très nerveuse à être plus calme et plus détendue. Et ce qui est absolument adorable, d'ailleurs, c'est que dans les premières semaines, la petite chatte a tété le chat qui est en mal pourtant, mais qui jouait à la maman avec elle.
Merci beaucoup Emmanuel pour votre témoignage. Alors quels sont vos conseils pour justement stimuler les chats, répondre à leurs besoins de grimper, de se défouler, de chasser, docteur Gâteau?
Ben oui, écoutez, il faut en fait avec la plume, la canne à pêche, etc. Il faut essayer de mimer finalement une séquence de chasse d'un chat. Donc ça veut dire l'agiter au départ, que le chat puisse observer, ensuite commencer à essayer d'aller en embuscade en fait par rapport à la plume, par rapport au petit jouet que vous aurez agité, puisse bondir dessus. Il faut qu'il puisse aller jusqu'à la fin de cette séquence de prédation et de chasse. Ça, c'est important pour pas qu'il reste frustré avec quelque chose qu'il n'arrivera jamais à attraper. Il faut vraiment aller au bout des choses à chaque fois.
Et j'ai repéré, Nicolas Desvart, dans votre livre, 4 commandements d'un jeu réussi. Le jeu réussi, évidemment, est un pourvoyeur de bonheur pour le chat. Ne pas jouer avec ses mains, c'est ça?
C'est ça. Sinon, il va prendre comme une agression et on va jouer à la bagarre. Et là, c'est ce qu'on peut avoir comme problème. J'entendais aussi par rapport au fait de courir, faire attention qu'on ne soit pas non plus la proie. On joue ensemble, il faut que ça soit contrôlé, comme disait Hélène. Il ne faut pas que ça soit de la bagarre.
Il ne faut pas arrêter un jeu brusquement aussi?
Tout à fait, il faut aller jusqu'au bout pour éviter les frustrations.
Et varier les types de jouets également?
Tout à fait, les différentes textures et autres. Alors, il y a des chats qui n'aiment pas le bruit, il y en a d'autres qui aiment le bruit. Voilà, tout ce qui est contact.
Guillemette.
Oui, mais quand on joue, il ne faut effectivement pas laisser traîner ses mains. Il m'est arrivé une ou deux fois qu'on me prenne pour la balle. Hein. Donc, oui.
Bon, nous n'avons pas le temps d'aborder une source de bien-être chez le chat, c'est l'alimentation. On consacrera, si vous le voulez bien, une émission entière consacrée à l'alimentation des chats. Merci beaucoup Hélène Gâteau. Je recommande votre livre, citez-le, vous l'avez entre les mains.
Je rends mon chat heureux aux éditions Solar.
Merci Nicolas Desvart. Ta langue au chat, c'est publié chez First. Merci Guillemette Audicinon, vous lisez évidemment dans Télérama et on vous retrouve demain dans Grand Main vous fasse pour votre chronique ciné-thérapie. Vous pouvez podcaster, partager cette émission et demain à l'occasion de la spéciale David Bowie sur France Inter, nous célébrerons le plaisir de l'écouter en compagnie de Julien Bisson qui lui consacre un numéro de la revue Légende et avec l'indispensable Mishka Assayas.